Radio, l'émission sur la Loire et les rivières du bassin de la Loire. Ensemble, prenons soin de l'eau.
Corinne Herbert, vous êtes en charge du volet économie d'eau du SAGE Gironde Nappe Profonde. Pouvez-vous nous expliquer le contexte de votre action en Gironde ?
Dans notre département, on est un petit peu un cas particulier. La très grande majorité de l'eau potable est fabriquée à partir des nappes profondes. Donc elles ont l'avantage d'être d'excellente qualité parce que c'est de l'eau qui a grosso modo 20 000 ans. Donc elle a été longtemps filtrée et elle présente aucun inconvénient et même beaucoup d'avantages du point de vue de la santé. Malheureusement, elles sont déficitaires. C'est pour ça qu'un document réglementaire a été élaboré, le SAGE Nappe Profonde de Gironde, pour les préserver. Et ça consiste à réduire les prélèvements dans ces nappes.
Qu'est-ce que c'est qu'un SAGE et quels sont les principaux objectifs du SAGE Gironde Nappe Profonde ?
Alors, un SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, c'est un document réglementaire, c'est une sorte de mini-loi sur l'eau locale qui est élaborée avec une commission locale de l'eau qui associe des élus locaux, des représentants de l'État et des associations d'usagers, donc ça se fait dans la concertation. Et c'est un mini-texte de loi qui permet de définir sur une masse d'eau cohérente, c'est-à-dire qui fonctionne à peu près de façon autonome sans trop communiquer avec d'autres eaux de surface de rivière ou de lacs à proximité, des règles de gestion, à la fois quantitative et qualitative, qui soient cohérentes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit une masse d'eau à peu près autonome, parce qu'on bien sûr tout ça communique, c'est un milieu naturel, mais des règles ont un sens à cette échelle-là. Donc dans notre département, des SAGE, il y en a plusieurs, il y en a sur des lacs médocains, il y en a sur la Garonne, il y en a sur des étangs. Et le nôtre, c'est en fait le rez-de-chaussée, si je puis dire, ou le sous-sol, ce serait plus logique, sur les nappes profondes.
Principaux objectifs du SAGE sur lequel vous travaillez ?
Donc j'imagine que comme tous les autres SAGE, il a un objectif de préservation du milieu naturel. Et donc notre milieu naturel à nous, c'est les nappes profondes. Et préserver les nappes profondes, ça consiste à réduire les prélèvements qui sont excédentaires dans notre cas.
Donc finalement, les économies d'eau et la maîtrise des consommations sont des axes majeurs du SAGE Gironde ?
Tout à fait, parce que il y a eu une réflexion qui s'est engagée dans les années, milieu des années 90, on va dire. Au départ, il avait été imaginé de résoudre le problème de la surexploitation des nappes profondes en allant uniquement chercher de l'eau plus loin. Donc de faire des usines de production avec des grosses canalisations. Et c'est tout. Et le besoin s'élevait quand même à 30 millions de mètres cubes par an à aller chercher sur 150, ce qui est quand même important. Et nos élus, quand ils ont pris conscience de ce constat, se sont dit finalement, si on continue, on va droit dans le mur, hein, puisque la population du département, et quelque part c'est bien, augmente parce qu'on est attractif, mais c'est pas une solution à terme et il faut absolument prévoir quelque chose de plus durable. Donc la première des solutions, ça a été non pas aller chercher de l'eau plus loin, mais d'abord réduire la demande avant d'augmenter l'offre. Donc encourager les économies d'eau qui doivent représenter plus de la moitié de la solution, donc au moins 15 millions de mètres cubes sur 30. Et à échéance 2013, qui est l'objectif du SAGE, on pense qu'il faudra aussi mettre en production 15 millions de mètres cubes de nouvelles ressources. Mais c'est durable dans le sens où si on arrive à faire ça, ça stabilise les prélèvements ça réduit les prélèvements dans les nappes à leur capacité naturelle et pas plus, donc c'est durable dans le temps. Et puis c'est aussi plus intelligent de ne pas utiliser d'autres ressources. Et une autre raison qui n'est pas neutre quand même pour les choix politiques, il ne faut pas le cacher, c'est que le fait de ne pas réaliser trop de grosses infrastructures et d'usines, ça représentait un coût d'investissement évité qui est quand même de 50 millions d'euros sur 150.
Comment développer plus largement et plus rapidement les économies d'eau dans l'habitat ?
Il faut d'abord que les acteurs publics soient exemplaires. Le patrimoine eau potable des collectivités, donc les réseaux qui fuient, donc limiter ces fuites, et puis le patrimoine des communes et des principaux établissements publics, donc dans l'arrosage des espaces verts, dans les consommations d'eau dans les bâtiments. Donc à partir de là, on peut s'adresser aux habitants. Eh bien, c'est surtout les informer, donner des informations techniques. Les gens sont demandeurs d'ailleurs, hein, pour expliquer, et surtout pas culpabiliser, mais dire vous avez un trésor sous vos pieds, si vous voulez que vos enfants en profitent, il faut faire attention. et puis expliquer comment ils peuvent s'y prendre.
Alors, comment s'y prendre pour faire des économies d'eau dans l'habitat?
Déjà, prendre conscience des endroits où on consomme le plus. C'est pas forcément évident. Se dire, dans une maison, l'endroit où ça se passe, c'est la salle de bain. C'est vraiment dans la douche et dans le bain. Et d'ailleurs, on encourage les gens à prendre plutôt des douches, pas pendant un quart d'heure, mais une douche d'une durée tout à fait raisonnable. Plutôt qu'un bain, c'est souvent déjà des économies d'eau. Et s'équiper d'une douchette éco, avec un flexi-eau renforcé, parce que quand on réduit le débit, on augmente la pression. Donc des choses toutes simples qui sont à la fois des gestes et un équipement matériel peu onéreux peuvent vraiment apporter des solutions importantes. C'est beaucoup plus efficace de prendre une douche courte que de penser à arrêter l'eau pendant qu'on se brosse les dents. Il faut faire les deux, bien évidemment, et se dire on peut être acteur. Parce qu'une petite goutte d'eau plus une petite goutte d'eau, ça constitue une grande rivière. Et si on consomme une centaine de mètres cubes dans chacun des logements, eh bien, au total, dans le département, on est 1,4 million. Et donc, ça finit par faire beaucoup. Donc, voir les endroits où on consomme le plus dans la maison et penser à agir et à s'équiper de petits matériels adaptables. Ça, c'est important. On peut mettre un petit aérateur sur le robinet du lavabo de la salle de bain et sur l'évier de la cuisine. On peut réduire le volume de chasse de son réservoir de WC. Donc avec un petit sac WC qu'on glisse à l'intérieur, ça peut être un sachet pour fabriquer des glaçons qu'on remplit et qu'on cale bien dans un coin pour qu'il ne pose pas de problème au mécanisme. Ça prend vraiment 5 minutes. Et chaque fois qu'on appuiera sur le bouton de la chasse d'eau, et bien ça fera 1 litre, 2 litres, 3 litres en moins. C'est très simple. Les petites choses, les petits équipements dont je vous parle, c'est une douchette éco, on va dire, c'est 25 €. Un flexible renforcé, c'est 15 €. Un sachet à glaçons ou un sac WC dans le réservoir de la chasse d'eau, ben, ça coûte 10 €, voire rien du tout. Et un petit aérateur au bout du robinet, c'est 10 €. Donc on va dire entre 50 et 100 €, vous équipez toute une maison. Et aussi, pensez à relever son compteur d'eau de temps en temps, parce que les fuites, il n'y en a pas si souvent que ça. Hein. Ça concerne 1% des gens chaque année. Mais malheureusement, quand elles arrivent, c'est beaucoup d'eau gaspillée, d'une part, et puis on le sent sur la facture aussi. Donc... C'est important de contrôler régulièrement son compteur pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.
Qui vivent dans des logements sociaux sont un public prioritaire d'action. Donc ça, c'est la volonté affichée dans le SAGE. Ensuite, en termes d'action, c'est progressif. La quasi-totalité des bailleurs sociaux de Gironde, pour tout le parc de logements neufs, propose à ses locataires des logements équipés, donc avec au minimum des WC 3 6 litres, un compteur, et puis souvent c'est des robinets double butés dans la cuisine, voire même dans la salle de bain et une douchette éco. Après, s'attaquer au parc existant, c'est autre chose. Donc, il y a pas mal d'opérations pilotes pour équiper quelques logements, voire une centaine au fur et à mesure. Et puis, ils sont en train de réfléchir vraiment pour agir sur la totalité des logements, progressivement, bien entendu. Et on travaille aussi avec les bailleurs sociaux pour revoir le contrat de maintenance, de façon à ce que quand un robinet ou une douche ou un WC est cassé et que donc un prestataire extérieur intervient pour le réparer, soit parce que l'habitant l'a appelé, soit parce que ça fait partie d'un programme préventif, ils ont un certain nombre de logements à visiter tous les ans, eh bien, automatiquement, c'est des équipements économes qui sont prévus.
Et au niveau de la détection des fuites ?
Effectivement, ils y font attention, que contrairement à ce que font par exemple les syndics, les copropriétés privées, qui ne relèvent qu'une fois leur compteur par an, en fait, ils reçoivent une facture, point. Il y en a pas tant que ça qui demande à ce que le compteur soit relevé plusieurs fois ou qu'ils le font eux-mêmes. Les bailleurs sociaux font attention et souvent le relèvent au moins 2 fois par an. Et justement, ils s'orientent vers une relève plus fréquente des compteurs en pied d'immeuble. Parce que c'est vrai que rien qu'un WC qui fuit, ça peut vite faire entre 100 et 300 mètres cubes sur une facture. C'est quand même important.
Alors, quelles sont les techniques simples pour détecter les fuites ?
Première étape, trouver son compteur. Ça paraît anodin, mais il y a une grande partie des gens qui ignorent même l'endroit où il se trouve. Prendre une feuille de papier, un crayon, et bien noter l'ensemble des chiffres, donc en noir sur fond blanc ou en noir sur fond rouge, qui figurent sur le compteur et qui correspondent au mètre cube et au litre, en fait. Le dernier chiffre, c'est les litres que vous consommez. Le relever le soir avant d'aller vous coucher, et le matin en vous levant, avant d'avoir pris votre petit déjeuner, une douche, et d'être même allé au sanitaire. Donc c'est pas parce que vous avez bu un verre d'eau pendant la nuit, ou même une fois tiré la chasse d'eau, que ça va être très important. Ça aura juste fait tourner les deux derniers chiffres. Et donc vous devez vérifier que le chiffre que vous relevez la seconde fois est presque similaire à celui que vous avez relevé en vous couchant. Et si jamais il y a quelque chose de très différent, eh bien recommencez l'opération pour voir si vraiment c'est confirmé et avoir une estimation plus fine.
Quel lien existe-t-il entre les économies d'eau et les économies d'énergie ?
À la fois en tant qu'usager de l'eau, un tiers de l'eau qu'on consomme dans une maison, c'est de l'eau chaude. Mais ça coûte beaucoup d'énergie de chauffer un mètre cube, à peu près 0,05 kW par mètre cube. Eh bien, c'est de l'énergie qu'on peut tout à fait éviter de consommer si on ne consomme pas l'eau, tout simplement. Donc si vous réduisez votre consommation d'eau de 20 à 30%, hein, ce qui est quelque chose qu'on peut tout à fait atteindre avec des petits gestes et des petits équipements adaptables, eh bien, vous réduisez votre facture d'énergie de 5 à 10% par la même occasion, sans rien faire de plus. Première chose. Et deuxième élément, c'est que l'eau, avant qu'elle arrive à votre robinet, il faut la pomper, il faut la traiter. Et une fois que vous l'avez utilisée, ça devient donc de l'eau usée qu'il faut traiter dans une station d'épuration. Et ça, c'est une économie d'énergie que vous pouvez permettre à la collectivité de faire si vous ne consommez moins d'eau. Et donc, vous verrez sur votre facture aussi.
Cette émission vous a été présentée par SOS Loire Vivante avec le soutien du Conseil général de Haute-Loire et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.